par rapport à des questions, des interrogations que vous avez aujourd'hui, bah, peut-être au moins poser chacune deux questions, et puis qu'on les mette un petit peu sur ce superbe panneau qui a été mis à notre disposition, qu'on puisse être regroupé, parce qu'il y aura peut-être un petit peu des points communs, peut-être sur le CV, peut-être sur le projet, peut-être sur l'entretien lui-même. Voilà. Et puis après qu'on essaye un petit peu d'échanger par rapport à ça. Juste par rapport à la présentation de tout à l'heure, moi j'ai noté par exemple que Alina avait comme projet qui était effectivement d'allier de la recherche avec de l'enseignement. Alors on peut dire, pendant peut-être longtemps, ça a été quand même un projet qui était peut-être un peu exclusif de la part de beaucoup de docteurs. C'est-à-dire c'était pour ça qu'on faisait un doctorat. Et puis il y a eu quand même une évolution dans le milieu universitaire, dans le milieu de la recherche aussi, qui fait qu'aujourd'hui, il y a peut-être de moins en moins de postes qui seront ouverts au sein des établissements d'enseignement de recherche, d'enseignement supérieur, sur des postes permettant de cumuler ce côté enseignant-chercheur. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, Béatrice disait l'importance aussi de bien préciser, de bien donner l'importance du secteur privé aujourd'hui. Donc, les études sont un petit peu différentes, mais on peut dire aujourd'hui, c'est quand même au moins plus d'un docteur sur deux rejoint le secteur privé. Par choix des docteurs, qui disent c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, ou pour certains, peut-être par obligation, parce qu'il n'y a plus de postes réellement ouverts dans la recherche publique. Je fais passer les post-it. Bon, c'était bien, effectivement, vous avez pu un petit peu lisser les questions, elles sont relativement diverses. Alors, moi, la première chose que je voudrais évoquer, donc effectivement, une question qui nous a été posée sur comment faire face à la concurrence avec des ingénieurs, avec peut-être des masters, et vous, en tant que jeune docteur, comment vous différenciez? Moi, un élément qui me semble vraiment important, c'est que très souvent, il peut y avoir une tendance, et par vous-même, jeune docteur, de vous considérer comme étant jeune diplômé. Est-ce que vous serez jeune diplômé demain?
Enfin, pour moi, non, parce que c'est assez ambigu. Pour certains recruteurs, malgré le fait, par exemple, que moi j'ai un diplôme d'ingénieur, le fait d'avoir un doctorat, ils vont considérer que je n'aurai le dernier diplôme acquis, par exemple le doctorat. Et le passé ingénieur va passer complètement, enfin pas aux oubliettes, mais va être atténué. Pourtant, pour d'autres, et ce qu'on m'a conseillé, toujours conseillé de dire, c'est que le doctorat était une expérience professionnelle. Donc voilà, mais c'est plus facile à dire qu'à faire accepter, je dirais, dans le milieu du recrutement.
Alors, là, j'entends effectivement qu'il y a vraiment une ambiguïté, mais dont vous êtes vous-même les acteurs principaux. C'est-à-dire, je pense qu'il y a énormément d'entreprises qui vont considérer les docteurs comme étant des jeunes diplômés. Mais je pense qu'il y a quand même une évolution depuis quelques années, où il y a une évolution qui fait qu'il y a quand même une valorisation aujourd'hui du doctorat. Et c'est à vous de poursuivre ce travail. Et ce travail, c'est aussi de valoriser. Et pour nous, et à Béatrice et à moi, et on se bat pour convaincre le maximum de personnes dans les actions que l'on mène en disant « Je suis un jeune professionnel, un jeune chercheur. » C'est vraiment au travail, par rapport au travail que vous aurez fait pendant ces 3 années de thèse, donc j'ai entendu peut-être parfois un peu plus longtemps, pour d'excellentes raisons, avec une maternité. Voilà. Effectivement, les thèses vont durer. Maintenant, effectivement, c'est paramétré sur 3 ans. Parfois, ça peut durer 3 ans et demi, donc il y a un peu des cas particuliers. Mais c'est vraiment de considérer qu'il y a eu de la gestion de projet. Vous avez géré un projet pendant trois ans. Vous avez répondu à un besoin. Les compétences de cette gestion de projet, vous êtes susceptible de les proposer demain à un autre employeur pour réaliser une autre mission d'un type équivalent. Voilà. Et pas forcément sur le sujet très pointu, très précis qui a été celui de votre thèse. Il peut y avoir une poursuite, bien évidemment, sur ce sujet-là, si c'est quelque chose de porteur, ou sinon, je sors de ce tout petit microcosme qui va être effectivement le sujet très, très pointu, très précis qui est le vôtre, je lui donne plus d'ampleur en jouant sur la transversalité des compétences que j'ai pu mettre en œuvre dans la gestion de ce projet. Et c'est vraiment dans l'insistance de ce travail-là, où je n'apparaîtrai plus comme un jeune diplômé, comme un jeune ingénieur, comme un jeune possesseur d'un master, où je me différencierai comme étant quelqu'un qui a une première expérience professionnelle de 3 ans. Je suis passé dans un autre cap. Et je crois que c'est vraiment ce travail-là. Si vous-même, vous n'en êtes pas convaincu, vous n'allez pas convaincre votre interlocuteur. Donc la première chose à faire, c'est déjà d'en être vous-même forcément convaincu et de communiquer en ce sens. Donc par exemple, une façon toute bête, dans mon CV, qu'est-ce que je mets en avant en premier ? Moi, j'aurais tendance à dire un CV qui commence par la présentation de mon doctorat. Je ne pense pas que ce soit le meilleur choix.
Effectivement, c'est sur l'outil CV que vous allez faire la différence. La différence entre jeune diplômé avec quelques stages même significatifs et professionnel avec 3 ans d'expérience. Vous êtes professionnel avec 3 ans d'expérience. Même si certaines entreprises, et même si pour vous c'est un peu confus, vous devez l'affirmer. Et vos 3 ans de thèse, si vous les mettez dans la catégorie formation, à mon avis, c'est dommage. Vous perdez l'intérêt. On ne peut pas du coup vous considérer comme un professionnel avec 3 ans d'expérience. Et quand vous regardez la majorité des offres d'emploi, généralement, sur la ligne expérience, c'est souvent exigé 2 à 3 ans. Et c'est la difficulté des jeunes diplômés où ils disent oui, mais il faut bien qu'on démarre un jour. Donc si personne nous fait confiance, etc., on n'aura jamais ces 2-3 ans. Vous les avez, ces 2-3 ans d'expérience. Et c'est énorme.
Juste une question, puisqu'on était dans le sujet. C'est alors mieux de mettre les 3 ans de thèse dans la rubrique activité professionnelle plutôt que parcours académique?
C'est de l'expérience professionnelle.
Expérience professionnelle.
C'est de l'expérience professionnelle. Okay. Après, il y a un diplôme, qui est le doctorat, le titre, d'accord ?
Oui.
Mais les 3 ans où vous avez mené vos travaux, vous avez fait de la conduite de projet, en fait, c'est de l'expérience professionnelle. Vous étiez salarié.
Oui, après le stage qu'on avait précédemment, en fait.
De plus en plus, au niveau université, toutes les structures... autour, qui gravitent autour, etc., groupement d'employeurs, tata, de plus en plus, il y a une sensibilisation pour faire reconnaître ces 3 ans comme 3 ans d'expérience. Et aujourd'hui, c'est reconnu réellement comme 3 ans d'expérience. Après, il y a toujours des chefs d'entreprise qui connaissent pas bien le parcours, etc., qui vont vous dire, mais non, pour moi, c'est pas d'expérience, c'est à vous de le convaincre. Mais c'est de l'expérience.
C'est à vous de les convaincre.
Et c'est parce que le CV, lorsque vous répondez à une offre d'emploi, le CV, la candidature passe par CV, lettre de motivation, et c'est le premier contact que vous avez avec l'entreprise, d'accord ? Et l'entreprise vous découvre à travers ces deux outils papier. Donc dès votre CV, vous devez le présenter comme ça. Et c'est beaucoup par la présentation que vous verrez naturellement, ça, il n'y aura plus l'ambiguïté. Vous devez être convaincu que c'est de l'expérience, même si vous avez encore un pied dans le milieu universitaire. Mais on va dire que c'est un orteil.